VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Dion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. Trois casques bleus ont été tués jeudi soir dans le nord-est du Mali lors d'une attaque combinée qui a également fait 8 blessés, a annoncé aujourd'hui la mission des Nations Unies, la MINUSMA, dans un communiqué. L'attaque a visé le camp de la MINUSMA à Kidal, cible de tirs intensifs, de roquettes et de mortiers qui ont fait 5 blessés parmi le personnel. Peu après, une position de la force a été attaquée à l'extérieur du camp. Aux trois casques bleus ont perdu la vie et trois autres blessés selon la mission de l'ONU. Au Burkina Faso, l'opposition et la société civile s'élèvent contre le nouveau projet de code électoral proposé par le gouvernement. L'opposition du pays qualifie ce projet de recul démocratique avec la suppression de la Commission électorale nationale indépendante. Il y a aussi la question du vote des Burkinabés de l'extérieur. Les explications à Ouagadougou, Zoumana Ouanougou.
Le document proposé par le gouvernement fait environ 160 pages et comporte 386 articles. De ces articles, l'opposition s'élève contre trois principalement. On écoute Nathanaël Ouédraogo, le secrétaire chargé des questions électorales de l'UPC, Union pour le progrès et le changement, sur les points querellés.
Par exemple, l'article 384 dit que jusqu'à la mise en place effective de l'autorité administrative indépendante en charge des élections, la Commission électorale nationale indépendante CENI et ses démembrements demeurent compétents pour l'organisation et la supervision des opérations. Donc vous voyez que c'est clair que la CENI est transitoire et que c'est les deux ACI qui vont maintenant le remplacer. Et ce qui est grave, l'article 382 de ce nouveau code dit la mise en œuvre des dispositions relatives au vote des Burkinabés résidant à l'étranger se fera de manière progressive à partir de 2020. C'est à partir de 2020. Ça veut dire que ça peut être après le vote présidentiel qu'on va commencer à autoriser les Burkinabés à l'étranger de voter. L'article 383 dit que les pièces d'identification ayant servi à l'inscription sur les listes électorales tiennent progressivement lieu de carte d'électeur.
Tout le monde est d'accord que le code électoral dans son format actuel a besoin d'un toilettage. Cependant, assure Pascal Zaïda, coordonnateur de l'OSC cadre d'expression démocratique CED, il ne s'agit pas de faire un chamboulement total.
On ne peut pas remettre en cause ce qui a été l'aboutissement d'un consensus général. On ne peut pas remettre en cause ce qui est démocratiquement reconnu par l'ensemble des acteurs. Donc aujourd'hui, on peut retoucher certains éléments de la centralisation des données entre l'Office national de l'identification et la CENI pour qu'on parte directement sur la base de la carte d'identité nationale comme un élément de base. On peut revoir peut-être, mais pas carrément, supprimer la CENI et renvoyer au ministère de l'administration territoriale en charge d'organiser les élections. Le ministère est partisan et comme Omar Bongoli nous l'a dit, vous ne pouvez pas organiser une élection et puis la perdre.
Face à cette levée de bouclier, le ministre de l'administration, Siméon Sawadogo, a dit ceci.
Je voudrais vous rassurer que le gouvernement n'a aucunement l'intention de supprimer la CENI. Et aucune disposition dans le document de travail qui existe ici ne supprime la CENI. Je défie quiconque de me donner un passage quelconque qui dit que la CENI doit être supprimée. Il n'y en a pas. Le deuxième point, le vote des Burkinabés de l'étranger. Sur cette question, le gouvernement est ferme. Le président du Faso a pris l'engagement. Et personne d'autre ne remet cela en cause. Le vote des Burkinabés de l'étranger sera une réalité en 2020. Si c'est le projet que nous avons produit là, il est là, il n'a pas dit le contraire. La réaction de l'opposition, pour moi en tout cas, elle est surprenante, dans la mesure où d'une part, mon département a fait preuve donc de la plus grande ouverture, et d'autre part, l'opposition elle-même, par correspondance, 2017-09, c'est fort du 10 mars 2017, a répondu à notre sollicitation pour voir qu'est-ce qu'on peut faire comme réforme au niveau donc de ce corps électoral.
Zoumana Ouanougo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Maroc, des centaines de personnes ont de nouveau manifesté hier soir à Al-Hoceima, où des heurts ont brièvement opposé en journée jeunes et policiers, signe de la tension persistante dans cette ville du nord du royaume. Il s'agissait des premières violences depuis 10 jours dans une ville en effervescence, épicentre du mouvement populaire Irak, qui revendique depuis des mois le développement du RIF qu'il juge marginalisé. La conférence inédite des Nations Unies sur les océans prend fin aujourd'hui à New York. Après une semaine de travaux, les participants, dont les chefs d'État et de gouvernement, des représentants de la société civile et du secteur privé, appellent à une mobilisation générale afin d'inverser la dégradation préoccupante du plus grand écosystème planétaire. Pour l'ONU, il s'agit de la poule aux œufs d'or que l'humanité a négligée. Qu'est-ce qui ressort donc de cette grand-messe? Jean-Victor Nkolo du bureau du conseiller spécial de l'ONU sur l'Afrique.
Il faut s'attendre à un réengagement de tous les États membres. Il faut s'attendre à l'adoption d'un consensus et d'une déclaration, n'est-ce pas, qui va vouloir réaffirmer l'association des gouvernements du système des Nations Unies et des organisations intergouvernementales ainsi que de la société civile pour sauver les océans, pour sauver la mer, pour préserver cet héritage qui est un héritage pour le monde entier. Donc, le rendez-vous de New York a été très important et compte tenu des doutes, du débat, des controverses qu'il y a eu autour de la question du changement climatique, le seul fait que les pays soient quand même venus à New York, se soient rassemblés et réaffirmer leur détermination vis-à-vis du changement climatique est en soi déjà une victoire pour l'avenir.
Jean-Victor Nkolo du bureau du conseiller spécial de l'ONU sur l'Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Élus et responsables européens craignaient ce vendredi de voir les négociations sur le Brexit capoter après la surprise des élections législatives britanniques qui ont vu les conservateurs de Theresa May perdre leur majorité absolue au Parlement. L'Union européenne espérait débuter formellement ses discussions dès le 19 juin, mais l'échec de Mme May dans ces élections, pourtant convoquées de manière anticipée afin d'obtenir une majorité renforcée pour négocier le Brexit, plonge Londres et Bruxelles dans l'incertitude. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a mis en garde le Royaume-Uni contre une absence d'accord. Ici, aux États-Unis, la déposition de James Comey serait-elle déterminante pour définir si oui ou non les présumées pressions dont l'ex-directeur du FBI a fait état représentent une tentative d'entrave à la justice? Jacques Aristide a posé la question à l'avocat new-yorkais Matthew Galluzzo.
Ce qui est problématique, c'est quoi? C'est que c'est vraiment indépendant pour le chef de FBI d'être indépendant. Sinon, ces enquêtes ne seraient pas objectives. Et pour avoir un président qui commande le chef des policiers à quoi faire avec ces enquêtes, c'est plutôt quelque chose qu'on trouvera en Venezuela peut-être, ou quelque part d'autre, mais pas aux États-Unis.
Monsieur Comey a toutefois de nouveau déclaré qu'il avait effectivement confirmé à Monsieur Trump qu'il n'était pas visé par l'enquête sur la Russie. Quelle lecture faites-vous de cela?
Peut-être c'est vrai que Monsieur Trump n'était pas le sujet de l'enquête, mais c'est pas tellement important pour la question d'obstruction de justice. C'est pas tellement pertinent.
Le témoignage de James Comey apporte-t-il de l'eau au moulin de certains élus de l'opposition démocrate qui cherchent la destitution du président?
Et je crois, oui. Ça donne une raison, mais vraiment, je doute que ça arrivera parce que ça doit être fait par des Republicans au Congrès et je crois qu'ils ne veulent pas faire ça. Et donc, ça donne une raison, mais on a besoin de, des Republicans qui veulent faire ça.
L'homme de loi, Matthew Galluzzo, à New York. La course à la qualification pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui se disputera au Cameroun est lancée ce vendredi. On est en sport football. 24 rencontres de haute facture sont programmées tout le week-end, dont les Léopards de la République démocratique du Congo contre les Diables Rouges du Congo voisin. Le derby du fleuve Congo aura lieu demain samedi au Stade des Martyrs à Kinshasa sur le coup de 18h30. Mise en perspective, Thierry Kabundi de Top Congo FM, nos stations partenaires à Kinshasa.
Revenus de leur stage du Maroc dans la nuit du jeudi 8 juin 2017, les Léopards de la RDC ont repris du service à Kinshasa dès jeudi soir en prévision du match de ce samedi face aux Diables Rouges du Congo-Brazzaville. L'objectif pour nous reste la victoire afin d'entamer dans les meilleures conditions les éliminatoires de cette CAN 2019, a dit Florent Ibengué, le sélectionneur principal des Congolais de Kinshasa. Leurs adversaires arrivent ce vendredi dans la capitale de la RDC pour ce derby du fleuve Congo. Sébastien Minier, le tout nouveau sélectionneur des Diables, voudra venger son mentor Claude Leroy, car lors de la dernière confrontation entre les deux sélections nationales, les Congolais de Kinshasa l'avaient emporté 4-2 après avoir été menés 2-0. C'était en quart de finale de la CAN 2015. À l'époque, il était l'adjoint de Claude Leroy. Kinshasa, Thierry Kamoudi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Merci Thierry, merci, c'est la fin de ce journal. Point final donc, le prochain journal aura lieu dans 50 minutes, ce sera en compagnie de Henri Franprise. Bon week-end à tous, Jean-Roger Bion à ce micro, au revoir.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.